Chapitre 16. La nuit de la pyramide. Chrysante lisait d'une voix lente, enfantine, traînante. Elle était pourtant l'une des plus douées en lecture, d'habitude, surtout depuis qu'elle avait accès à la bibliothèque du château et qu'elle pouvait lire des histoires à la lie. Zizo, assis sur le banc à côté d'elle, devant la plaque de marbre gravée au-dessus du jardin fleuri du cimetière de Picpus, n'osait pas l'interrompre. Chrysante butait sur chaque mot, alors que sa gorge se noyait de sanglots. Elle déchiffrait néanmoins chaque ligne du cahier manuscrit, dévoilant à voix haute, page après page, la suite du récit de Pierre Sol. Je croyais avoir trouvé la solution pour sauver les 600 enfants de Paris. Quand je dis qu'ils étaient 600, en réalité, je ne connaissais pas leur nombre exact. Il devenait difficile de les compter. Des enfants surgissaient parfois de je ne sais où, seuls ou en groupe. Certains semblaient avoir marché pendant des jours entiers, alors que d'autres sortaient d'une maison où ils s'étaient cachés. J'essayais de les recenser, de les nourrir, de leur apprendre à partager, à se laver, à parler sans crier. Mais l'été se terminait. Les jours commençaient à raccourcir, et avec les nuits les plus longues, les cauchemars étaient de plus en plus difficiles à chasser au matin. Les jours de pluie devenaient plus fréquents, et la pluie de plus en plus froide. Nous, les derniers adultes, allions disparaître au pire moment, juste avant l'hiver, laissant les centaines d'enfants dehors, seuls, sans défense. Oui, je pensais avoir trouvé la solution. Après tout, il suffisait de faire comme les mendiants du Moyen-Âge, comme les réfugiés et les sans-domicile qui demandaient asile. Il suffisait d'aller sonner à la porte du château. C'est le nom que j'avais donné au Louvre quand j'en parlais aux enfants du nuage. Le château. C'était le seul endroit de la ville où il y avait de la lumière, où il y avait de la chaleur, où il y avait de la place aussi. Cette fois, j'étais persuadée que Marie-Lune ne pourrait pas refuser. Marie-Lune, elle se faisait appeler ainsi par les enfants du château. Marie-Lune était comme moi, médecin, scientifique, directrice du laboratoire Utopie, et comme moi, une des rares adultes survivantes. Elle effectuait le même travail que moi, avec la même énergie, avec le même sentiment d'urgence, sauver des enfants. Il y avait juste entre elle et moi une petite différence. J'avais fait le choix de sauver le plus d'enfants possible, elle, seulement quelques-uns. Je suis allé voir Marie-Lune en septembre. Tout Paris était encore baigné par un soleil radieux, mais je savais que cela ne durerait pas. Les enfants se promenaient dans les rues, à peine habillés, se nourrissaient de grains de raisin ou de mûres sans se soucier de s'écorcher les bras avec les ronces. Ils dormaient dehors sous un arbre quand ils étaient fatigués. Aucun d'entre eux n'avait la moindre notion de ce qu'était une saison. Aucun ne se rendait compte du danger, de l'hiver qui arriverait. Je devais anticiper. Marie-Lune ne m'a pas laissé entrer. Elle m'a reçu devant la pyramide, elle m'a expliqué que le château était un refuge reposant sur un équilibre fragile. La petite équipe d'adultes survivants qu'elle dirigeait et qui se réduisait de mois en mois avait réussi à mettre au point le soleil de fer, un drone géostationnaire fonctionnant à l'aide de cellules solaires capable de produire de l'énergie au château pour une dizaine d'années à condition que le nombre de pensionnaires n'excède pas 100. Cette énergie, c'était la condition pour que les enfants puissent survivre sans adultes jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment autonomes. Si elle était épuisée trop rapidement, tout serait perdu. Aucun enfant, au final, ne serait sauvé. Je suis retourné voir Marie-Lune en octobre. Je gardais espoir. Il pleuvait depuis une semaine, une pluie fine et continue, sans qu'aucune chaleur ne vienne sécher l'humidité permanente qui imprégnait jusqu'aux murs des maisons froides où les enfants se réfugiaient. Beaucoup toussaient. Les nez coulaient, jamais soignés. Les enfants se serraient les uns contre les autres pour se réchauffer, éternuaient, crachaient et accéléraient ainsi la contagion en partageant microbes et bactéries. Marie-Lune s'abritait sous un parapluie devant la pyramide. Moi, non. Je savais que ce n'est pas d'un rhume ou d'une grippe que je mourrais. Elle m'a redit que son programme avait été calculé avec la plus grande précision par quelques adultes ayant accepté de se mobiliser pour le projet du château. Il regroupait des informaticiens, des physiciens, des pédagogues, des professeurs, des médecins, des biologistes. Ce projet avait pour but de donner une chance à l'humanité quand le dernier adulte aurait disparu et que les enfants auraient à peine 6 ans. C'était dans ce but qu'ils imposaient aux enfants des règles strictes, les programmaient, pour ainsi dire, en tournant des vidéos, en les habituant à suivre des cours, en mettant en place toute une organisation à laquelle aucun enfant ne pourrait désobéir. C'était un pari risqué, disait-elle, une course contre la montre. Il fallait faire de cette centaine d'enfants des êtres civilisés, sages, disciplinés, dès l'âge de 6 ans. C'était la seule chance de sauver l'humanité. Pour qu'elle ne disparaisse pas, il fallait qu'une poignée d'enfants soient éduqués et prêts à défendre la culture, les arts, les sciences. Tout ce que les hommes avaient mis 3 millénaires à bâtir et qui, sans eux, serait oublié. Ils étaient à la fois la mémoire et l'espoir du monde. J'y suis tout de même revenu en novembre, sans réel espoir. Le sol devant le château, entièrement verglacé, brillait avec le même éclat que la paroi de verre de la pyramide. Marie-Lune est sortie à ma rencontre, emmitouflée dans un grand manteau de fourrure d'hermine blanche. Le contraste entre la chaleur du château et le froid mordant à l'extérieur lui rosissait les joues. Partout dans la ville, des enfants essayaient comme ils le pouvaient de se protéger du froid en se réfugiant dans des caves calfeutrées de feuilles ou de paille, en se recroquevillant sous des couvertures de fortune. Mais il fallait bien sortir, il fallait bien se nourrir, et il n'y avait presque plus aucune nourriture à cueillir, à chasser ou à pêcher. Avec les derniers adultes survivants, nous n'étions plus que 5. Nous organisions quelques distributions de soupe, bouillies avec ce que l'on trouvait, des racines, des fruits secs, des feuilles de tilleul ou d'ortie. Il n'y en avait jamais assez. Je mendiais juste à Marie-Lune de quoi tenir quelques mois, de quoi servir aux enfants du dehors, autre chose qu'une eau chaude. Elle m'a expliqué que le programme d'alimentation au château avait été calculé de la façon la plus stricte possible pour une centaine d'enfants par une équipe constituée d'un diététicien, d'un agronome et d'un pédagogue, tous disparus aujourd'hui, qui s'étaient beaucoup affrontés. Il ne s'agissait pas seulement de conserver des graines, des céréales, de faire vieillir des fromages ou de stériliser des légumes. Le projet du château consistait avant tout à faire en sorte que les enfants acquièrent une autonomie alimentaire, apprennent à économiser, stocker, cultiver. Seul, personne ne pouvait être certain qu'un tel plan fonctionnerait. C'était un apprentissage extrêmement précis et compliqué, un pari loin d'être gagné, et qui échouerait à coup sûr si l'on acceptait de partager les maigres provisions avec la moindre bouche supplémentaire. Je me suis rendu une dernière fois au château en décembre, mon ultime espoir. Les rues de Paris étaient recouvertes de 20 centimètres de neige. J'avais décidé d'emmener le plus d'enfants possible, moins d'une vingtaine au départ, mais au fil de notre marche, en descendant la longue vallée blanche des Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Aiguille, c'est ainsi que les enfants appelaient l'obélisque, des dizaines d'autres naufragés nous rejoignaient. La foule grossissait. Après le passage du convoi, le manteau de neige immaculé n'était plus qu'une traînée d'eau froide et boueuse dans laquelle les enfants piétinaient, semelles trouées, parfois simplement chaussées de chaussettes ou de foulards noués aux chevilles. Une armée de gueux en route vers le château fort. Ils vont mourir, Marie-Lune. Ils vont mourir si tu ne les aides pas. Regarde, ils sont des centaines. Les parois de la pyramide étaient les seules à ne pas être recouvertes de neige, sans doute parce que la température du verre suffisait à la faire fondre. Cette fois-là, Marie-Lune ne sortit pas. Elle se contenta de me parler dans un interphone. Ces mots étaient amplifiés par un micro qui résonnait devant la pyramide comme une parole divine, puis se perdait dans l'immensité cotonneuse du jardin des Tuileries. Les enfants massés devant la pyramide cherchaient d'où sortait cette étrange voix sans comprendre la moindre des paroles qu'elle exprimait. « Ils sont des centaines, oui, je vois, mais imagine !» Imagine si les millions, les milliards d'êtres humains qui n'ont pas survécu au passage du nuage se tenaient là, debout, autour de nous. Même en se tenant bien serrés, ils occuperaient toute la place jusqu'à la Concorde et même sans doute toutes les rues de Paris. Que représentent tes quelques centaines de protégés face à la catastrophe qu'a connue l'humanité? À peine les habitants d'un petit village sur la planète? Moins que les occupants de la tour d'un immeuble. Ce qui compte, c'est qu'une poignée d'enfants survivent pour que le monde puisse survivre après, pour que cette centaine devienne un millier dans une génération, puis à nouveau quelques millions dans plusieurs générations. Ce sont des graines, les dernières graines pour que la civilisation puisse refleurir. Si on les jette au feu, tout sera perdu, personne ne survivra. J'avais compris cette fois, je ne la convaincrai pas. J'allais repartir, emmener mon armée déglinguée quand un des enfants s'est mis à frapper sur la paroi de verre. Il avait vu de la lumière à l'intérieur, ou peut-être avait-il deviné qu'il y faisait chaud. Alors, tous les autres enfants l'ont imité. Ils se sont mis à cogner contre la pyramide de toute la force de leurs poings. On aurait dit un cœur battant, battant très fort. Boum, boum, boum. J'ai eu l'impression que le martèlement allait durer des heures, que les enfants ne céderaient que lorsque ce mur invisible tomberait. Et je savais qu'il ne tomberait pas, qu'il était bien trop solide pour céder à leurs dérisoires coups de pied et de main. À l'intérieur du château, des enfants alertés par le bruit passaient, s'arrêtaient. La plupart étaient vêtus de pyjamas, quelques filles de robes légères, des garçons de shorts de toile. Ils levaient les yeux, étonnés de découvrir autant d'autres enfants au-dessus d'eux. Ils croyaient à un jeu, La plupart se mirent à accompagner le rythme, à frapper dans leurs mains, à applaudir et à rire. Ils avaient 4 ans. Comment auraient-ils pu comprendre? Le cœur géant continua de battre fort pendant de longues minutes avant de se calmer peu à peu. Les bras se fatiguaient, les jambes se tétanisaient, les mains se posaient à plat sur les plaques de verre pour s'y figer. Je devais moi-même les décoller de peur que leurs doigts gelés n'y restent définitivement soudés. Petit à petit, les respirations ralentissaient et la buée soufflée par les centaines de bouches se muait en un fin brouillard qui se déposait sur le verre en opacifiant la transparence. À l'intérieur, les enfants n'étaient déjà plus que des silhouettes floues, des fantômes, qui bientôt disparurent dans un nuage de vapeur comme si elles n'avaient jamais existé. Tout était fini. Nous sommes repartis dans la nuit. Avant de quitter la pyramide, j'ai tracé un U dans la neige, du bout de ma semelle trempée. Marie-Lune était une scientifique comme moi. Elle comprendrait. U, le symbole de l'union. Le U de utopie. Et d'un pied rageur, je l'ai barré. Je vous épargne le chemin du retour, je vous épargne les jours, les semaines qui ont suivi. Jamais l'hiver n'avait paru aussi sévère. Je vous épargne le décompte du nombre de petits anges qui se sont endormis pour toujours, emportés avec leurs rêves gelés, libérés de toute souffrance. Ils sont là, rendus à la terre. Au cimetière de Picpus, partis rejoindre leurs parents au-delà du nuage. Je termine aujourd'hui ce récit. Nous sommes le 25 décembre. Combien d'enfants survivront? Combien reverront le printemps? Combien ressentiront de nouveau la chaleur sur leur peau? Respireront de nouveau l'odeur des champs de fleurs à pleine narine et goûteront à pleine main aux fruits gorgés de sucre. Combien fêteront leurs 5 ans? Ceux qui survivront se souviendront-ils de la nuit de la pyramide? Sans adultes pour en raviver le souvenir, qu'en restera-t-il? Juste un cauchemar qui viendra longtemps les hanter? Une haine lointaine, mais qu'ils n'oublieront jamais. La violence, ils l'apprendront, elle sera leur compagne quotidienne s'ils veulent survivre. Alors, dans les derniers mois qu'il me reste à vivre, je vais essayer de leur apprendre l'unique chose qui leur sera réellement utile dans le monde qu'ils auront à rebâtir. Je vais essayer de leur apprendre à aimer.